Qu'est-ce qui t'a amené à la céramique?
Alors, quand j'étais jeune adolescente, j'ai eu la curiosité de prendre des cours de modelage de gens qui posaient nus dans un atelier indépendant. Et puis j'ai oublié ça. Enfin, j'ai mis ça de côté. J'étais aussi intéressée par le dessin et d'autres choses. Et puis c'était voilà, c'était un de mes frères qui m'avait aidé à faire ça. Et puis après, il se trouve que entre 25 et peut-être voilà, 25 et 30 ans, j'étais sur Paris. Et je pense que c'est la danse qui m'a amenée à la céramique, parce que j'ai redécouvert un peu la pratique, enfin le besoin que j'avais d'une pratique corporelle quasi quotidienne, quoi. Enfin, il y a quand même des choses incroyables en danse contemporaine, en impro, là-bas, dans des lieux publics, avec des gens très très ouverts et généreux de partage. Et voilà, donc j'étais dans ce truc-là je dirais, redécouvert du corps un peu, en quelque sorte. Et puis par hasard, voilà, une amie d'amis donnait des cours dans lesquels on pouvait aller sans payer, je sais plus quoi, à Puteaux. Et puis voilà, c'est reparti. Parce qu'entre-temps, j'ai pratiqué énormément d'autres techniques, hein. J'ai toujours dessiné, j'ai fait de la photo en diapositive beaucoup, j'ai fait du textile. Mais je crois que ce passage par le corps a fait que j'avais besoin de matière et que. Voilà, mon choix s'est arrêté sur cette matière-là.
Donc la terre.
Oui. Ben oui, voilà, la terre, besoin du contact avec la matière, d'inventer à partir de rien et d'inventer un langage à partir de ça. Quelque part un peu un autodidacte parce que après j'ai fait une petite formation de tournage et bien sûr je n'ai jamais tourné après la formation. Voilà. Et non, non, moi c'était mettre les mains dedans, que le corps soit actif. Et je pense que c'est aussi dû à mon histoire. J'ai beaucoup été trimballée entre la France et l'Espagne et j'ai des souvenirs. Dans un endroit précis en Espagne, j'ai le souvenir qui restait de la couleur des champs. Enfin, parce que c'était des champs désertiques, puisque c'était le sud. Et voilà, je me questionnais toujours sur pourquoi ce champ est de cet ocre-là, pourquoi l'autre est d'une autre couleur, de quoi ça. Et puis des émotions que ça me procurait, en fait, visuelles, de marcher dessus. Et je pense que j'ai eu une forte émotion dans cet endroit-là précis, où, qui était un endroit très sauvage, hein, très aride, qui m'a émue assez jeune, je pense. Voilà. Ouais.
Et alors donc, ok, entre la France, l'Espagne, un passage à Paris, et qu'est-ce qui t'a amené en Bretagne?
Donc je suis à Paris, j'ai fait plein de petits boulots. Bon, quand même, c'était soit dans le social, soit en rapport avec les arts. Tout ça n'était jamais très lointain, même si je faisais quand même des boulots alimentaires. Et puis voilà, plus mon désir de terre se précisait. Bah, plus je réalisais qu'à Paris, ces choses-là, avoir un atelier, être équipé, bah, ça me paraissait juste impossible. Et puis voilà, encore une fois, c'était une soirée, une fête. On m'a parlé de donc cette association qu'on connaît bien et de Christine Gaine, en fait, des amis de Christine, enfin des amis. Voilà, des connaissances de connaissances de connaissances m'ont parlé de Christine Gaine qui était au Diben, qui accueillait des jeunes céramistes. Et c'est par elle que la vie m'a amenée en bord de mer. Et une fois ici, c'est vrai que j'ai pu bouger, quoi. Je suis restée au bord de la mer. Christine n'est plus là, mais c'est grâce à elle que je suis là. Et je me sens bien ici. Donc, ça s'est fait ici. Puis voilà, et c'est vrai que à la campagne, voilà, j'ai eu de nombreux ateliers. Il y a plus d'espace quand même, ça reste plus accessible. Aujourd'hui, j'ai une chance folle d'avoir un atelier à Plougade-Guéran qui est merveilleux, énorme et magnifique avec deux autres artistes par la mairie de Plougade. Je les cite parce que. Bah ouais, non, mais franchement, quand même. Enfin, je dirais pas beaucoup de mairies qui propose de tels ateliers. Et voilà, et c'est franchement, des fois, je me rappelle à l'idée que j'ai une énorme chance de bénéficier d'un si bel atelier. Voilà.
Et ton parcours montre un intérêt particulier à mener des projets avec des publics dits fragiles, aussi bien enfants qu'adultes.
Oui.
Peux-tu nous en parler?
Disons que moi, quand j'étais aux Beaux-Arts, je suivais. J'étais très curieuse de plein d'autres choses que les arts. Enfin, a priori. J'étais curieuse aussi des autres arts. Je ne comprenais pas trop le cloisonnement, de faire une école d'art et de pas mélanger les disciplines. Du coup, j'allais en auditeur libre à la fac. Je suivais les cours de un personnage de Perpignan, Michel Ballatte, des cours de sémiotique et psychanalyse. Et donc Michel Ballatte, qui était rien d'autre que le pote de la bande de psychothérapie institutionnelle avec Jean-Henri, tout ça. Donc c'est des gens un petit peu que j'ai suivi. Et parallèlement aussi, donc oui, la psychiatrie, ça m'a parlé, sûrement de moi en partie, hein, mais en fait, j'aimais bien les ambiances des séminaires, des cours. Après, j'ai continué à Sainte-Anne de suivre des cours magistraux comme ça, sans tout comprendre à ce que j'écoutais, parce que j'avais peut-être pas tous les outils, mais il y avait un rapport au langage, je trouvais hyper intéressant, inventif et même à la pensée, enfin, ça ouvrait des portes. Et puis aussi, ça m'aidait parce que je dessinais les gens qui étaient assis. Et comme ils bougent pas, les gens qui font des cours et qui les suivent, c'était des modèles parfaits pour dessiner au quotidien. Et en fait, depuis toujours aussi, depuis que j'ai 16 ans, j'ai commencé par l'animation. Voilà, j'ai toujours eu ce contact-là au départ avec des jeunes. Et puis après, pareil, j'ai bossé pas mal d'années à l'hôpital de Bray-Necker. Voilà, animation, art plastique plutôt. Non, juste avant, alors je ne sais plus dans quel ordre, mais je me suis dit, tiens, j'irai bien voir ce qu'ils font à la fac de médecine de Tours. Ils proposaient un DU d'art thérapie que j'ai fait sur 3 ans comme ça. Bon, après, je n'ai pas été art thérapeute, mais bon, ce qui m'intéresse, je crois, dans les formations, c'est plus les bagages que les fonctions qu'elles donnent, tant bien même que ce soit une fonction. Moi, j'aime bien l'idée que le regard soit transformé. Et puis, après, c'est vrai que quand je propose des ateliers d'art, de sculpture ou peu importe, ben voilà, j'ai un angle, je pense, j'essaye d'avoir un angle de travail accueillant et ouvert pour que chacun ait sa place. Peu importe où ça se passe, si c'est dans une prison, dans un hôpital psychiatrique, soit une personne allongée qui peut bouger que la paupière ou une personne qui peut utiliser que ses pieds, ben en fait, déjà, c'est à moi de m'adapter. Et puis en gros, ça se passe plutôt toujours bien parce que j'essaye que la personne s'éclate à faire ce qu'elle fait, en fait. Voilà. Et c'était quoi la question? Oui, voilà,
Tu as eu des
psychiatrie.
projets marquants parmi ceux que tu as menés avec, je sais que tu as intervenu dans des EHPAD, donc en prison, auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
Oui.
Peut-être que tu as envie d'en dire plus sur un de ces projets menés avec elles.
Oh, peut-être un où je me suis vraiment beaucoup amusée, mais parce que j'avais des professionnels face à moi qui étaient ouverts et accueillants. Là où je me suis pas mal bien amusée. C'était à la résidence Saint-Michel à Plougourvest. Où en fait j'ai commencé une résidence avec les moyens du bord, là-bas. Et moi j'aime bien, enfin, le luxe pour moi, c'est de dire, d'arriver, de faire une résidence, déjà de prendre le temps de découvrir. Le lieu, les personnes, de les rencontrer. Donc du coup, au départ, je faisais de la flûte traversière dans les couloirs. Et puis, les couloirs en psychiatrie, c'est toujours intéressant comme endroit. Et ça me passe beaucoup des choses dans les couloirs. Et puis voilà, on venait me parler ou pas, on écoutait ou pas. Et c'était déjà m'autoriser le temps de la rencontre. Déjà, c'était énorme. Il y a aussi une art thérapeute là-bas qui est extraordinaire et qui a tout fait pour que ça se passe bien. Et puis il y a eu le confinement, tout ça, donc ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et le bon côté de la durée, c'est que le résultat, j'espère que tout le monde s'y est retrouvé en fait. On a fait une installation sonore à base de porcelaine collective. Suspendu dans la chapelle de l'hôpital, enfin c'est pas un hôpital, de la résidence quoi. Et on a fait un concert improvisé avec l'art thérapeute, elle a la vielle à roue fabriquée maison, et la flûte. Et en fait c'était un moment, alors c'est le premier événement après le confinement, du coup les soignants ont pleuré. C'était pour eux, c'était la première fois que tout le monde se réunissait après des périodes difficiles. Surtout dans ces lieux-là, ça a été compliqué pour les personnes qui ont vécu l'enfermement dans l'enfermement, je dirais, parce que c'est, on pourrait appeler ça comme ça, hein, être enfermé dans une chambre tout le temps du confinement. Je ne sais pas si j'aurais pu, moi. Bref, et donc les retrouvailles, enfin, ça a été vraiment joyeux. Et voilà, le temps de travail rallongé a permis toutes ces rencontres de personne, quoi. Vraiment, c'est, j'ai pas rencontré des malades ni un hôpital, j'ai rencontré des personnes. Et j'espère que voilà qu'elles se sont autant amusées que moi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est, je prends plaisir à travailler dans ces contextes-là. Oui.
Le tiers-lieu de Morlaix, La Virgule,
Ah
donc,
oui.
expose actuellement Naevus.
Oui.
Naevus, c'est bien comme ça
C'est
qu'on
ça.
prononce. Voilà. Comment est né Naevus et quel est son propos?
Bon, bah encore une histoire, quoi. C'était le musée de la briqueterie qui se situe. Donc, ce projet est né d'une proposition du musée de la briqueterie avec le Bon Accueil, qui est un centre d'art sonore. Et la briqueterie, qui est un musée qui se situe face à la baie d'Ilion. La baie d'Ilion, on la connaît à la fois pour sa beauté, à la fois pour les algues vertes et les problèmes qu'il y a eu. Et donc, ils nous ont proposé. Donc, je travaille de plus en plus avec Christophe. Là, c'était. Christophe et moi, donc son nom d'artiste Christophe, c'est Yomé, qui est un artiste sonore. Et tous les deux, on a un collectif qui s'appelle Miom. Voilà. Et on voulait travailler sur des textures d'accumulation. Enfin, on voulait un petit peu, voilà, pas aborder frontalement la question des algues, ce qui aurait pu mettre la puce à l'oreille un peu trop. Aux institutions, on va dire. Moi, je voulais parler de matière en décomposition, mais en grande quantité, et l'idée d'un résidu qui se démultiplie par dans l'idée d'envahissement comme ça. Donc, super. La briqueterie, enfin toute l'équipe très sympathique m'a ouvert les portes de leur atelier qui n'est rien d'autre qu'un atelier face à la mer et dans un contexte très sauvage, très beau. Vraiment, c'était super. Et c'est marrant parce que Damien du Bon Accueil m'a parlé d'un bouquin un bouquin d'Hodgson qui s'appelle La chose et les algues, qui relatait des histoires un peu qu'on pourrait nommer fantastiques, bien que au départ, voilà, ce soit pas un domaine comme ça qui m'attire. Donc dans ce recueil, en fait, des histoires de marins sont récoltées, des histoires extrêmes. Et les hallucinations qui allaient avec leur situation extrême, encore une fois, c'est-à-dire qu'ils se retrouvaient coincés dans la nuit noire, dans des lieux sombres où ils voyaient les algues bouger d'une certaine manière, ils voyaient les cailloux bouger, ils se rendaient compte qu'en fait, c'était pas des cailloux. Enfin, voilà. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui est de l'ordre de l'hallucination due à des conditions de vie difficiles, non nutries, sans eau, voilà. Et qu'est-ce qui est dû à l'interprétation qu'ils en faisaient. Enfin, voilà, un livre qui m'a beaucoup porté pendant cette résidence, parce que moi, j'ai passé un hiver de tempête là-bas, où je dormais, pareil, dans un lieu près de la plage, et où. Entre ce livre et ce que je voyais sur la plage, j'ai commencé un peu dans un état. Moi, j'aime bien me mettre dans des états de travail. C'est-à-dire, ça a été, je sais plus, 2, 3 mois, je sais plus. Au quotidien, 12 heures par jour, à travailler non-stop, dans l'état qui fait que tout sort dans une même direction Et ce qui est sorti, donc c'était au départ, c'était quelque chose qui était de l'ordre de j'ai imaginé un petit peu comme des restes archéologiques, à la fois des restes archéologiques humains qui auraient pu être retrouvés suite au passage d'une vague type tsunami dans cette côte, quoi. Qu'est-ce qu'il resterait de nous? Et à la fois un mélange avec toutes les matières organiques qui viennent de la mer, dans l'idée que non seulement bah, on sait bien que l'espèce humaine a pour origine, le vivant a pour origine des bactéries au fond de la mer, on vient de la mer, quoi. Dans l'idée que peut-être on y retournera un jour. Voilà. Et Naïvus, c'est né comme ça. J'ai produit beaucoup, beaucoup de pièces. L'idée, c'était de que ça sorte, quoi. Vraiment, je me mets vraiment dans un état particulier de travail, de forte concentration et de lâcher prise à la fois pour que il n'y ait pas deux sculptures qui sortent pareilles, mais que toutes fassent partie de la même famille. Donc, à la fois, je voulais aussi leur donner un aspect. J'ai travaillé les mailles pour leur donner un aspect mouillé, un aspect vivant qui, au reflet de la lumière, peut donner ces sensations-là. Voilà. Et puis, il y a une suite qui a été due aussi au soutien. Il y a une fondation qui a vu ce travail, la fondation Régnier, qui m'a soutenue pour faire un autre travail, pour m'aider à la continuer parce qu'il y a eu le confinement et tout le tralala. Voilà.
Alors, on le constate avec cette nouvelle installation, Naevus, tes pièces sont très organiques
Ouais.
et elles portent les marques irrémédiables de la main humaine. Quelle relation entretiens-tu avec le vivant, avec l'anthropocène, l'effondrement en cours?
Ben, forcément, ce sont des questions qui sont présentes au quotidien, mais moi, j'y réponds pas. Enfin, j'y réponds avec les moyens que j'ai, c'est-à-dire je suis pas une militante, on pourrait dire active, sur le vivant, dans le sens où je vais pas forcément en manifestation. Je sais pas ce que ça veut dire actif, mais voilà, j'ai pas, je brandis pas un drapeau plus qu'un autre. Par contre, voilà, à ma petite échelle, dans ma campagne, par des petits gestes, je pense œuvrer à mon petit niveau pour que des petites choses se développent, de l'ordre, voilà, du local, de l'entraide, des choses comme ça. Et ma langue, c'est l'art parce que je suis quand même dans la nécessité de produire, que ce soit des sculptures ou d'autres choses. Vraiment, c'est comme. Enfin, c'est là, quoi. Donc, moi, c'est cette langue-là que j'utilise. Et avec laquelle je suis à l'aise. Voilà, je fais comme ça. Je sais pas faire autrement, en fait. J'aimerais, hein, pourtant, je peux des fois me reprocher de ne pas être allé à telle manif, de pas être. Voilà, après, à ma petite échelle. J'ai quand même ma carte de syndicat, enfin, je trouve que aussi, j'essaye que le droit des artistes soit respecté. Je trouve ça important, par exemple, d'avoir un regard sur les questions des droits de monstration, mais au même titre que le vivant dehors, que les plantations dehors soient. Comment dire, soit respecté en fait, ou que je vais faire le détour pour pas marcher sur les insectes. Je sais pas. Après, voilà, on peut toujours faire mieux, mais je suis une fille. Ma famille, du côté de mon père, ils étaient tous bergers et agriculteur, donc je suis très sensible à toutes ces questions-là, de pas laisser une trace trop lourde derrière soi, en fait. Vraiment, cette notion-là de tuer qu'on est là pour un petit passage rapide, et puis que bah, on n'est pas grand-chose, donc faut pas trop. Faut laisser les choses dans le meilleur état possible. Et les choses, c'est le vivant aussi, c'est la grenouille dans le lavoir, c'est c'est des petites choses comme ça. Voilà, moi je fais comme ça.
Merci Myriam.